Je vais y aller de mon tout petit mot d'introduction. D'abord, pour dire que vous êtes bien à la salle Victoria D et que vous assistez à V3, archiviste, bibliothécaire, muséologue, même différence. Ça va pour tout le monde? Excellent. Alors, écoutez, en guise d'introduction, je me contenterai de présenter l'animateur François Cartier. Je connais François depuis déjà un bon moment. Je suis un fan fini de François Cartier.
C'est tout réciproque.
Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Ce n'est pas la première fois que François participe au congrès de l'AAQ. Je me souviens, il y a déjà un bon moment, il avait lancé l'idée qu'il fallait que les archivistes établissent des partenariats, qui est un discours qu'on entend régulièrement. Mais il disait, le partenariat avec les gens de musée, c'est extrêmement important, lui-même travaillant dans un musée. Je l'avais entendu, je trouvais que ça avait plein de bon sens. Alors, je me suis essayé, moi, à pratiquer le partenariat avec les gens de musée. Je l'ai fait à la ville de Montréal avec les gens du Centre d'histoire de Montréal. On a été gagnants sur toute la ville. Je suis maintenant archiviste chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. On n'a pas un, mais deux musées chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Et on a entrepris des partenariats avec le musée d'Amérique bourgeois et avec également la région Saint-Gabriel. À nouveau, nous sommes tout à fait gagnants. Autre chose, François a attiré mon attention sur les partenariats, sur les collaborations. Suite à ces indications, moi je me suis mis littéralement là, à me précipiter vers les musées pour voir l'utilisation qu'ils font des archives. Alors, il suffit de fréquenter moindrement les musées au Québec pour se rendre compte qu'il y a une utilisation absolument phénoménale des documents d'archives. Si vous allez au musée Lincoln, chaque été, sur l'avenue McGill College, vous allez voir des expositions, des archives qui sont accessibles à tous les passants. Si vous allez dans le musée, vous avez peut-être déjà vu à l'occasion du 100e anniversaire de HEC, vous avez vu certainement la très belle exposition qui était le résultat du partenariat des muséologues du McGill, des archivistes de HEC. Si vous êtes allé au Musée des Beaux-Arts de Montréal, la très belle exposition à l'occasion du 350e anniversaire de l'arrivée des Sulpiciens au Canada, une extraordinaire exposition qui présentait les Sulpiciens et l'art sacré, c'était une combinaison d'artefacts et d'archives, à 40% des archives. Alors, on pourrait multiplier les exemples comme ça. François nous a mis, je pense, sur une piste extrêmement profitable. Ce matin, ce qu'il nous propose, c'est de se définir comme archiviste, comme professionnel, mais en y allant avec une comparaison avec d'autres disciplines. Je vous l'ai dit, je suis un fan fini de l'archive. Par conséquent, j'accepte d'embarquer dans sa démarche et nous verrons au cours de la prochaine heure à quel point ça pourra nous être profitable. Donc, je vous souhaite une bonne journée.
Bon, eh bien, bon matin. Quand l'appel de communication a été lancé pour le présent congrès et quand on a mis l'archiviste comme thème central à ce congrès, je me suis dit, je pense qu'il faudrait que je propose quelque chose. Denis en a déjà glissé un mot. Les partenariats, pour moi, sont intéressants. Et ce que je voulais faire aussi, c'était de mettre en valeur ce qu'est l'archiviste en tant que tel, mais en se définissant aussi par rapport aux autres professionnels qui travaillent dans le domaine de la culture et du patrimoine, qui, finalement, généralement, font des choses assez semblables, même s'ils ne sont pas archivistes. Et c'est un peu pourquoi j'ai rassemblé ce matin, pour vous, trois professionnels-le, en passant. Après, j'ai réalisé, bon, c'était trois dames, mais c'est finalement peut-être pas un accident aussi, parce que, pour voir passer les classes d'étudiants qui ont changé de cours, j'ai réalisé aussi que la profession d'archiviste, mais aussi, je pense que c'est là au niveau de la muséologie et de l'économie, devient de plus en plus féminine. Donc, ce n'est pas l'instant qu'on retourne dans les trois ans. Et donc, pour moi, c'est important, je pense, de mieux nous définir par rapport à ce que nous sommes, aussi par rapport à ce que nos collègues, l'autre, comme je l'ai dit dans la présentation de la table ronde, fait comme travail. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on va faire ce matin. Je vous présente rapidement les présentatrices de ce matin, en commençant ici, pardon, par Mme Julie Lemieux, qui est directrice, je veux juste bien le présenter, du service de gestion des documents et des archives à HEC de Montréal. À ses côtés se trouve Mme Sarah de Bonny, qui est directrice chef du qui d'ailleurs porte un peu les deux chapeaux, qui est archiviste et aussi muséologue, qui travaille en ce moment aux archives des Jésuites, avec Mme Wittner ici, ça va prendre, à Montréal. Alors, sans plus tarder, je suis la parole à Julie. Et juste pour dire aussi que chacune va présenter son milieu rapidement, pour vous donner un peu une idée aussi d'où elle se met, où elle travaille. Et on reviendra à la suite des trois présentations d'une dizaine de minutes sur un échange, sur une table ronde, sur différentes thématiques dont je vous, que je vous présenterai dans quelques instants.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Je dirais moi aussi que maintenant que je réalise que je suis la première à commencer ce matin, que je suis aussi une fan finie de François. Oui, j'ai pas la voix assez forte. Je suis désolée, je suis pas capable de rester assis quand je parle. J'ai trop la bougeotte, donc debout, ça paraît un petit peu moins. Donc, ce matin, je suis ici pour couvrir, bon, l'archiviste au présent. J'ai eu un petit moment de stress. Je présume pas parler de l'archiviste au présent, mais de ce que c'est qu'être archiviste à HEC Montréal. Donc, je suis arrivée à HEC Montréal il y a 5 ans. Évidemment, notre mandat n'est pas uniquement que, contrairement peut-être à un milieu de type muséal ou encore un milieu de type bibliothèque, donc on n'a pas qu'une seule mission, soit d'acquérir des fonds d'archives privées et les mettre en valeur, mais on a vraiment une mission beaucoup plus large. Ce qui fait que, de temps à autre, par rapport aux collègues, il y a certains éléments qui peuvent peut-être être divergents. Pour parler de ce que c'est qu'être archiviste à HEC Montréal, je dois vous parler un tout petit peu de HEC Montréal en tant que tel. C'est important parce que ça va situer un tout petit peu quel est le rôle dans lequel je me situe par rapport à la préservation justement des archives liées au milieu des affaires et du commerce. Donc, l'école a été fondée, on fêtait notre 100e anniversaire en 2007, donc fondée en 1907, par la Chambre de commerce. C'est important, c'est intéressant, parce que, bon, l'école est née de la volonté du milieu des affaires. Donc, elle est née de cette volonté-là de se créer une caste d'affaires canadienne-française, et ça s'est exprimé ainsi. Les valeurs de l'école, même à travers ces années-là, sont toujours demeurées les mêmes, donc celles de tradition et de modernité. Ça peut sembler s'opposer, mais au contraire, c'est plutôt complémentaire. Donc, il y a la maxime qui dit toujours que l'avenir est garant du passé. Dans le cas de HEC, c'est véritable. On parle aussi beaucoup de leadership, d'ouverture sur le monde, et je pense que le mandat qu'ils nous ont accordé en témoigne aussi. En tout cas, témoigne peut-être pas d'une ouverture sur le monde, mais d'une ouverture sur notre domaine de pratique. L'évolution de la clientèle aussi est importante, puisque sur le départ, il y avait à peine une poignée d'étudiants, donc une trentaine d'étudiants. Quelques cent ans plus tard, on a plus de 12 000 étudiants en temps complet, plus 63 000 diplômés, ce qui fait que si les étudiants ont explosé, le volume de professeurs a explosé aussi, et le volume de membres du personnel administratif aussi. Donc, ça vient aussi... comment je pourrais dire ça, largement modifier aussi nos activités quotidiennes. Le service de gestion des documents et archives, le nom, je le raccourcis volontairement par SGDA. On l'a modifié l'année dernière pour mieux refléter justement notre mandat au sein de l'école. Donc, ne pas être uniquement que le service des archives, mais aussi celui de la gestion des documents. Donc, on a un mandat standard qui demande à ce qu'on dote les unités administratives d'enseignement et de recherche des outils et des moyens nécessaires pour contrôler la création, contrôler et gérer la création des documents créés, reçus dans le cadre de notre mandat. Dans un but évidemment de rentabilité administrative aussi, mais dans le but aussi de protéger cette information-là, de préserver la mémoire de l'institution et de pouvoir éventuellement la diffuser, la rendre accessible. Donc, notre mandat se divise vraiment en deux grands domaines d'activité, donc un volet de gestion documentaire, un volet aussi de gestion des archives historiques de l'école, mais aussi beaucoup plus largement tout ce qui touche le patrimoine des affaires et du commerce à Montréal et au Québec plus largement. Rapidement, je ne le couvrirai pas. Le service de gestion des documents et archives va gérer, bon, les documents actifs, semi-actifs directement chez nous. Donc, on a à peu près 5000 espaces pour les semi-actifs. Gérer les outils aussi, tels calendrier, plan de classification, un programme de gestion de documents essentiels, donc un programme standard de gestion documentaire. Et au niveau des archives historiques, on a un service de référence aux chercheurs, donc les chercheurs internes, donc de profil gestionnaire, donc la haute direction de l'école, professeurs étudiants, mais aussi des chercheurs externes. Donc, on a une salle de recherche qui est ouverte au public, qu'on accueille avec un service de référence donné par une archiviste professionnelle. On va aussi s'occuper, bon, du versement, traitement, conservation, diffusion des archives de l'école, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, d'un certain nombre de fonds d'archives privés qui ont été acquis par le GDA au fil du temps. Les ressources, on est chanceux, on a une belle équipe de 5 ressources à temps complet. Donc, je dis tout le temps que j'ai une équipe miroir, donc j'ai vraiment deux personnes dédiées à la gestion des archives historiques, donc une archiviste de type professionnel et une agente de bureau qui sont dédiées vraiment qu'à la gestion des archives historiques. Et de l'autre côté, j'ai deux ressources de type technique qui s'occupent vraiment de la gestion des actifs semi-actifs. Et de mon côté, je dis tout le temps la blague que je suis aux deux. Donc, je travaille tant avec les archives historiques que les documents actifs semi-actifs. Donc, pour ma part, acquisition de fonds d'archives privés, gestion du service, gestion des ressources, développement de petits projets de diffusion et tout ce qui concerne la gestion du numérique. Au niveau des ressources financières matérielles, là encore, je suis curieuse de voir comment mes collègues vont en parler tout à l'heure. C'est sûr que, bon, de notre côté, les ressources ne sont pas exponentielles. Donc, je dis tout le temps qu'on doit faire avec ce qu'il y a. Donc, la majorité des ressources qu'on nous accorde, tant financières que matérielles, doivent vraiment être dédiées au programme de gestion documentaire de l'école. Donc, directement dédiées aux besoins des unités. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à des projets peut-être de valorisation pour les archives privées, à ce moment-là, bien, des fois, il faut être ingénieux, être créatif et se trouver d'autres ressources pour les réaliser. Mais on y arrive quand même. Donc, on offre aussi en parallèle, l'école est quand même... comment je pourrais dire ça, généreuse en ce sens qu'elle nous permet aussi d'offrir aux professeurs de l'école puis aux organismes privés qui résident à l'école, telles les associations étudiantes, la coopérative de l'école, de leur offrir des espaces pour la gestion de leurs documents semi-actifs et de leurs archives historiques. Donc, c'est ce qu'on couvre véritablement avec le budget qui nous est alloué année après année. Donc, comme je disais, il faut essayer de rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir se trouver des sources de financement externes. Donc, lorsqu'on pense, par exemple, aux ressources matérielles, bien, il y a différentes associations ou regroupements professionnels tels que le RDAQ, donc les programmes d'achat commun. Donc, c'est intéressant, ça vient réduire le coût d'achat de ces ressources-là. On va se retourner vers ça. Les programmes de soutien financier, donc on peut penser au Programme national de développement des archives, au programme de traitement de BNQ. Donc, il faut se tourner vers ces ressources-là, mais on peut aussi aller un petit peu plus loin lorsqu'on fait l'acquisition de fonds d'archives, essayer de trouver des terrains d'entente avec le donateur. Donc, par exemple, ça peut être le prêt d'une ressource. S'ils ont un archiviste, est-ce qu'on peut s'entendre pour avoir le prêt d'une ressource durant quelques temps, donc une année, par exemple? C'est arrivé dans un certain cas qu'ils nous aient prêté leur archiviste pour une période d'une année, ce qui a permis le traitement de ce fonds-là. Dans certains cas, ils vont aussi accepter de nous, de nous financer soit le salaire, le traitement d'une ressource ou encore l'acquisition de matériel pour la conservation des documents d'archives. Donc, on va de ce côté-là ou encore la recherche de commanditaires. Donc, il y a toujours de bonnes âmes lorsqu'on en cherche. Donc, voilà un tout petit peu. Au niveau du profil de ce qu'on a chez nous, actuellement, on a plus ou moins 221 fonds d'archives, aux deux tiers des fonds d'archives institutionnels, à peu près 75-76 fonds privés. Je dirais que la grande majorité ont été traités de façon définitive, évidemment, en conformité avec les RDDA. Les 107 fonds qui nous restent sont accessibles. Je ne vous dis pas qu'ils sont traités de façon finale, mais largement accessibles grâce à ce que j'appelle mes traitements préliminaires. Donc, on va appliquer le calendrier de façon très, très serrée, faire des inventaires vraiment très détaillés pour... Une minute! Pour pouvoir justement les rendre accessibles. Réseau de diffusion standard, site web de l'école, RDAQ, BAC, on va s'intégrer éventuellement au catalogue de la bibliothèque, à laquelle on est déjà intégré en grande partie pour les documents audiovisuels. Donc, c'est un guichet unique, si je peux dire, pour accéder à l'ensemble des ressources d'information de notre secteur. Profil des chercheurs, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Ce qu'on acquiert, bien, de tout. Je ne me limite pas à ce qu'on pourrait catégoriser comme des documents d'archives, donc documents textuels ou photos. On balaye un petit peu plus large, c'est-à-dire que pour moi, un fonds d'archives, tant qu'il témoigne de la vie d'un homme d'affaires, tant qu'il témoigne d'un créateur, qui a du 3D, des artefacts, des photos, du textuel, ça ne change rien. Si j'ai les ressources pour pouvoir traiter ces éléments-là de façon, comment je pourrais dire ça, cohérente, sans menacer leur préservation à long terme, tout en m'assurant qu'on puisse les exploiter de la meilleure façon possible et rendre accessibles, bien, je ne me limite pas à ça. On a essayé, dans certains cas, et je vais terminer là-dessus, de faire des acquisitions que j'appelle partagées. Donc, par exemple, HEC acquiert les archives alors qu'un musée acquiert les éléments, les artefacts. Pour ma part, ça n'a pas été, en guillemets, un succès. Donc, il faut apprendre des leçons apprises. Pas parce que c'était une mauvaise action. C'était très intéressant, mais on renvoyait les chercheurs à un deuxième centre complètement dans l'est de la ville où ils devaient y aller pour consulter les photos, par exemple, qui ont été catégorisées dans ce cas-ci comme éléments de type muséal, plutôt que comme archives, ce qui fait que, bon, papier chez nous, puis tout le reste au musée. Donc, ça a été plus ou moins concluant, mais c'est cela. On apprend de nos erreurs. Bien, ce n'était pas une erreur, mais bon, on apprend et on chemine avec ça. Et comme j'ai les espaces nécessaires, les ressources, on va aussi se chercher des collègues dans d'autres domaines, que ce soit des bibliothécaires ou muséologues. Et ça nous permet justement de peut-être combler les petites lacunes qu'on peut avoir des fois à titre professionnel. Donc, veux-tu une petite seconde pour la question? Vite. On s'est doté d'une politique d'acquisition il y a 4 ans pour justement mieux définir ce qu'on devait acquérir et pourquoi. Et je termine vraiment là-dessus, sincèrement. Si je regarde le type de clientèle que j'ai actuellement comme chercheur chez nous, ça peut être décevant. C'est beaucoup des étudiants deuxième, troisième cycle en histoire ou en sociologie. Même chose du côté des chercheurs, beaucoup de professeurs, d'enseignants de l'histoire, muséologie. Pas muséologie, mais... sociologie. Et je me suis toujours demandé pourquoi les professeurs de l'école, pourquoi les étudiants de l'école ne venaient pas chez nous à titre de ressources parapédagogiques, comme l'est une bibliothèque. Et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais ce que je sais, c'est qu'à la naissance de l'école, il y avait un cours d'histoire du commerce. Et 100 ans plus tard, il n'y en a plus, alors qu'on a tout ce que ça prendrait pour pouvoir en donner un très intéressant. Donc, ma prochaine mission, lorsque je fais une acquisition avec la politique qu'on a là, c'est de justement essayer de me trouver un professeur, un spécialiste du domaine pour lequel je réalise une acquisition, et d'essayer de l'intéresser par la bande à ce que j'acquiert. Et c'est pas gratuit, donc peut-être d'essayer d'aguicher un éventuel chercheur à ce fond-là, un éventuel étudiant à venir justement s'en servir comme cas d'étude. Donc, j'abandonne pas la partie, mais c'est un des éléments les plus difficiles, je pense, de notre programme d'acquisition, de réussir à diversifier notre clientèle, d'en avoir une qui est constituée majoritairement des gens des HEC. Voilà.
C'est
joli. De rien.
Alors, bonjour. Je vais, moi, rester assise parce que j'ai appris que nos paroles étaient enregistrées. Je ne voudrais pas qu'il y ait une seule de mes paroles qui se perde dans l'espace. Alors, je me présente, donc Sarah Debogui. Moi, je vais vous parler rapidement du milieu dans lequel je travaille. Bibliothèque des livres rares et collections spéciales. Encore un peu plus près. Oui, merci de me le préciser. Encore une fois, c'est important pour moi. Je vais vous parler rapidement de nos collections pour vous montrer à quel point on est multidisciplinaire et divers dans nos types de collections. Je vais vous parler rapidement des services. Vous pourrez sans doute faire des rapprochements avec le milieu archivistique et après avec le milieu des musées. Nos missions, conservation-diffusion, qui se rapprochent aussi beaucoup de ce qui se fait en archives, et les compétences spécifiques exigées par notre milieu. Et puis peut-être que là encore, il y aurait des liens à faire. Autant de pistes offertes à M. Cartier. Alors, pour commencer avec les collections, Je voulais vous montrer à quel point chez nous on était multidisciplinaire. On est multidisciplinaire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est lié à l'historique des collections, c'est-à-dire que les collections de la Bibliothèque des livres rares de l'Université de Montréal, elles se sont à la fois bâties par des dons de particuliers, donc qui étaient des collectionneurs qui avaient un champ d'intérêt en particulier, et ce qui a évidemment beaucoup coloré la nature de nos collections, et également par le biais de transferts qui viennent des bibliothèques disciplinaires de l'université. Donc on a des fonds historiques de la bibliothèque, par exemple, de mathématiques ou d'aménagement, etc., qui ont été rassemblés à la Bibliothèque des livres rares. Donc, pour cette raison-là, nous sommes très multidisciplinaires. Cette multidisciplinarité a un impact évidemment sur la clientèle. Ça veut dire qu'on a de la clientèle extrêmement diversifiée. On a des juristes, on a des scientifiques qui s'intéressent à la médecine. Ça peut être également, on a un certain nombre de personnes qui vont s'intéresser également à l'astronomie. On a des physiciens, on a évidemment des historiens de l'art, des littéraires, on a des latinistes. Donc vous voyez que c'est extrêmement diversifié parce qu'effectivement ça reflète nos collections, donc ça amène des gens très différents. En termes de développement des collections, évidemment ça a un impact également, nous sommes très multidisciplinaires, le budget lui ne l'est pas, donc il faut qu'on arrive à se concentrer sur certains aspects, mais en même temps cette diversification fait en sorte que parfois ça peut être un petit peu un casse-tête. Et puis les compétences professionnelles aussi, en touchant à autant de domaines, en devant creuser, mettre en valeur, conserver, décrire des collections aussi diversifiées, évidemment, ça appelle des compétences qui soient aussi multidisciplinaires que les collections. Donc voilà rapidement un petit portrait à ce niveau-là. Et puis, à titre d'exemple, je vous ai fait une petite liste des disciplines auxquelles on touche dans nos collections. Donc art, architecture, architecture du paysage, on a du droit général, de l'histoire du droit, des éditions en grec, en latin, des manuscrits médiévaux, histoire générale, histoire du Canada évidemment, on a deux grosses collections principalement en histoire du Canada, littérature d'ancien régime, littérature moderne, contemporaine, on a des collections particulières en poésie, on a des collections particulières en histoire de la médecine, on a des partitions anciennes qui nous viennent de la bibliothèque de musique, botanique, mathématiques, économie, collection très vaste de manuels scolaires, collection très vaste de littérature pour la jeunesse, la théologie avec des textes liturgiques, etc., etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on a dans notre bibliothèque. Alors, et je voulais vous le montrer aussi en image. Donc là, j'ai bêtement récupéré ce qu'on retrouve sur la page d'accueil de notre site web. Donc ce que vous voyez, je ne sais pas si ma petite flèche... Oui, elle est là. Donc ce que vous avez ici, ça vient d'un fonds de livres d'artistes du fonds Jacques Fournier. Et donc c'est un livre d'artistes. On a une collection assez importante. Ici, vous avez la page de titre d'un livre qui est issu de la collection Cocteau, avec une dédicace manuscrite de Jean Cocteau. On a également évidemment des fonds anciens, donc tout ce qui est antérieur à 1800. Ici, vous avez la page d'un incunable, d'une édition donc, du 15e siècle. J'ai perdu ma petite souris. Et qui est un ouvrage de théologie. À côté, si on poursuit, une petite vue de nos réserves. À côté encore, vous avez un manuscrit. On va reparler de la diversité des types de documents qu'on a chez nous, qui traite des Amérindiens, la découverte en fait, du nouveau continent. On est dans le Dablon. Et puis en dessous, vous avez une page bien connue d'un de nos ouvrages en histoire de la médecine de Valverde. Voilà un petit échantillon en image de ce qu'on a chez nous. Alors, je vous ai parlé de l'aspect multidisciplinaire, mais pour la diversité également, en termes de diversité dans le temps, parce qu'on a des ouvrages et documents qui datent du Moyen-Âge et ça va jusqu'à nos jours, on l'a vu avec les livres d'artistes. On a même quelques tablettes qui datent de 800 avant Jésus-Christ, qui sont des tablettes sumériennes. Dans l'espace aussi, nous avons des collections qui proviennent d'Europe, nous avons des collections qui proviennent d'Amérique, nous avons des collections qui viennent d'Asie. On a une très belle collection de livres qui nous ont été transférés par le Centre d'études asiatiques, qui est une collection de livres japonais qui est magnifique. Et nous avons aussi des ouvrages qui viennent d'Afrique, des manuscrits éthiopiens notamment. Donc nous sommes très diversifiés à tous les points de vue, y compris dans les types de documents. Donc je vous ai mis la liste, hein, on a des imprimés, on a des journaux, on a des revues, on a des affiches, des gravures, des cartes, des plans, des manuscrits, des éphémères. Logique, me direz-vous, dans une bibliothèque de livres rares, mais également des objets que nous sommes en train d'inventorier, des tableaux, il y en a sur tous les murs, il n'y a plus un seul mur qui ne soit pas orné d'un tableau, d'une sérigraphie, d'une lithographie, on songe à en installer au plafond maintenant parce qu'on n'a plus d'autre place, des pots à pharmacie, sculptures, du matériel médical, on a une très belle trousse de médecins de campagne qui nous fait nous réjouir de vivre au 21e siècle, et monnaie, médaille, sceaux, etc., etc. Alors, au niveau des services, ce sont des services classiques hein, qu'on offre à la bibliothèque des livres rares, à commencer par la référence, avec le travail de référence de première ligne, où les gens qui viennent nous voir savent déjà ce qu'ils veulent. Donc, nous, on va simplement localiser dans la bibliothèque ce qu'ils veulent et puis leur chercher ça. Mais il y a également le travail, évidemment, de référence approfondie, qui consiste à voir le bibliothécaire, parler en détail de sa recherche, et là, le bibliothécaire vous accompagne pour aller chercher dans les collections ce qui peut vous être utile. Ça, c'est ce qui s'apparente davantage au travail tel que je l'imagine d'archiviste, parce que traditionnellement, nos autres collègues disciplinaires en bibliothèque, eux, vont plutôt aller s'appuyer sur les bases de données pour aider leur clientèle. Nous, c'est vraiment un appui total et complet sur nos collections. Alors évidemment, consultation, là je fais un peu de publicité si jamais vous voulez venir nous rendre visite. Donc c'est consultation sur place et je ne vais pas m'attarder très très longtemps car il ne me reste qu'une minute. Donc ça c'est classique, vous avez la salle de consultation ici. On a également une offre de reproduction et on va passer très rapidement. On prête également les documents aux institutions. En ce moment, celui-ci est en prêt, par exemple, au Musée de la Civilisation à Québec. Et je vais aller au plus intéressant et au plus long, mais qui va être assez bref quand même. Donc, nos missions de conservation, on a des actions de conservation, comme en archive encore une fois, et vous avez à nouveau une petite vue de notre réserve principale. On fait appel à des restaurateurs à l'externe. En ce qui concerne la diffusion, on organise des expositions environ deux fois par an. Ici, je voulais vous montrer une petite chose faite par les membres de l'équipe qui sont très créatifs. C'était dans le cadre d'une exposition sur la mort. Donc, on avait construit nous-mêmes une vanité. On est allé chercher un crâne dans une des collections de l'université, une ancienne vielle dans un autre centre de collection de l'université. On avait fait cette petite chose. On diffuse beaucoup aussi. On a un site web qui nous permet d'améliorer cette diffusion. Vous pourrez aller le visiter, vous verrez ça. C'est très, très agréable. On fournit un certain nombre de conseils spécialisés en plus d'offrir des ressources. Et puis, évidemment, on a des projets de numérisation qui sont en cours. Et finalement, pour la diffusion, effectivement, on est en train d'enrichir la description, le niveau de description de nos collections dans le catalogue des bibliothèques, puisqu'on s'intègre dans ce cadre-là. Mais étant donné la diversité de nos collections, on essaye aussi de commencer à décrire, par exemple, les artefacts ou les documents d'archives de manière archivistique ou muséologique. Voilà. Et je finirai donc sur les compétences. Les spécificités des compétences dans ce métier-là, des connaissances évidemment en histoire du livre, savoir faire de la description matérielle du livre ancien, parce que ça diffère du livre classique, avoir des connaissances en conservation et préservation, en montage d'exposition, en numérisation, et évidemment dans notre milieu qui est très multidisciplinaire, évidemment une curiosité qui va avec. Voilà, très rapidement, j'espère que je ne vous ai pas essoufflé. Un petit aperçu du milieu dans lequel nous on fonctionne.
Donc, bonjour, je m'appelle Claudine Vien, je travaille dans le domaine de la muséologie et de l'archivistique, muséologie plus longtemps que l'archivistique, depuis au moins 4 ans. À la différence de mes collègues ici, je ne vais pas vous présenter un milieu. En muséologie, ce qui arrive habituellement, c'est qu'on a des contrats. Donc, on est contractuel. En archivistique, un peu aussi, c'est un peu la même situation. Donc, j'ai vécu pendant 4 ans dans différentes institutions, différentes expériences. le travail que j'ai fait est plus un travail de terrain qu'un travail décisionnel. Et puis, c'est pour vous montrer à quel point la muséologie et l'archivistique, des fois, c'est très connexe et ça se mélange. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir les deux aspects dans sa profession. Donc, rapidement, je me considère comme une hybride. Je fais un petit peu tout ce qu'on me propose de faire. Je vais chercher les informations quand je ne connais pas. Alors, la formation très, très rapide en muséologie, il y a la maîtrise en muséologie, il y a la technique en muséologie, ce que j'ai fait, il y a le certificat en archivistique pour l'archivistique, et formation connexe, c'est-à-dire, quand on est dans le domaine du patrimoine, on ne reste pas sur nos acquis. Évidemment, il faut aller se chercher de la formation en histoire de l'art, de la formation au centre de conservation, de la formation dans tous les congrès possibles pour rester à date et puis pour pouvoir aussi accepter des contrats plus tard parce que c'est très, très diversifié comme travail. Rapidement, quand on est dans ma situation et que quelquefois on a le chapeau en muséologie ou en archivistique, on travaille avec une panoplie de professionnels, soit les chercheurs. Pour ce qui est de la référence, on travaille souvent en exposition avec des historiens, des muséologues, des archivistes, des graphistes, des designers que je n'ai pas inclus, des coordonnateurs de projets, gestionnaires et artistes. Donc, il faut connaître le domaine d'un peu tout le monde, il faut être capable de sociabiliser et de comprendre les besoins de tout le monde pour pouvoir travailler avec eux. On travaille à la documentation des collections, on peut décrire des fonds, on travaille à la mise en valeur, donc c'est la conceptualisation de l'exposition dans le domaine technique. On peut aussi travailler au montage d'exposition. Et puis, il faut connaître les normes de préservation, parce que non seulement il faut les connaître, mais il faut répondre aux urgences quand ça arrive. Et les urgences, je ne parle pas nécessairement d'un dégât d'eau en muséologie ou en archivistique, mais d'objets qui, tout d'un coup, décident de bouger dans une exposition. Pourquoi ils bougent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ambiance est trop sec, trop humide? Donc, il y a plein de choses à connaître. Évidemment, tout ne peut pas rentrer dans un seul cerveau. Donc, on travaille avec tous les professionnels que j'ai énumérés plus haut. J'ai aussi oublié les restaurateurs. Donc, c'est très multidisciplinaire. La documentation et la description. En muséologie, on utilise des objets, mais on utilise aussi les archives pour leur possibilité, pour leur témoignage et aussi pour leur aspect esthétique. Dans une exposition ou dans un musée, souvent on va acquérir et les objets et les archives pour pouvoir les diffuser. Donc, ce n'est pas un traitement par rapport aux archives, par rapport au fond nécessairement. De prime abord, on va chercher des archives vraiment parce que ça va intéresser la clientèle et les visiteurs. Donc, le traitement au départ est un peu le même entre l'objet et l'archive, tout dépendant des institutions. Donc, je vous montre par les photos. J'ai travaillé à plusieurs institutions, je vais les nommer très rapidement. J'ai travaillé au Grand Séminaire de Montréal un tout petit peu. J'ai travaillé, d'ailleurs, on peut voir une installation de photographie qu'on a faite au Grand Séminaire avec les moyens qu'on avait là-bas, qui étaient quand même très bien. J'ai travaillé au Centre canadien d'architecture, Château du Musée, Musée du Château Ramsay, Éco-Musée du Fiermonde. Je travaille présentement chez les Jésuites. Donc, il faut s'adapter à tous les lieux de travail et les possibilités. Ici, on travaillait, en haut, ce qu'on voit, les personnes qui manipulent une tortue, c'était pour rapatrier des objets. Au Grand Séminaire, il a fallu faire une documentation. Peut-être que cet objet-là va être exposé un jour. Le traitement était assez ardu parce que, c'est un vieil objet qui n'avait pas été nettoyé ni restauré. Dans les animaux naturalisés, il y a plusieurs produits toxiques. Donc, de là, moi, peut-être on ne me reconnaît pas, mais j'ai un masque sur la figure. Il faut savoir se préserver les objets, mais se préserver soi-même aussi pour pouvoir travailler plus longtemps. Mais, en gros, c'est de la documentation. En bas, vous me voyez au Centre canadien d'architecture avec une estampe. J'ai travaillé aussi avec les archives. Et puis là, il faut décrire. On utilise des différentes normes, les RDDA ou d'autres normes de description, tout dépendant de ce qu'on a devant nous. Mais en général, au Centre canadien d'architecture, on décrivait pour le chercheur ou pour l'exposition. Je décrivais très sommairement parce qu'il y avait En fait, il y avait quelqu'un qui s'occupait de la description de tout ce qui allait là, à la publication, à l'exposition et tout ça. Mais on travaillait sur le terrain, je pourrais vous dire, de manière assez similaire pour l'archive ou pour l'objet. Puis pourtant, c'est deux domaines très différents, l'objet d'art et l'archive. On travaillait aussi... Une minute? Deux minutes? Rapidement, dans mon domaine, on travaille aussi à la diffusion. Vous avez encore un exemple au Centre canadien d'architecture. L'objet qu'on présente, ce sont des timbres qui ont été faits lors des camps d'étudiants de l'architecte Cedric Price. Ces timbres-là, c'est moi qui est allée les chercher dans les boîtes. Ce n'était pas documenté. C'est un fonds d'archives. Le fonds d'archives a été acquis pour certaines raisons, mais tout n'était pas encore décrit. Et puis, le chercheur voulait absolument voir les timbres et les diffuser. Donc, il faut être capable de trouver les objets et puis de les restaurer minimalement. Moi, je ne suis pas une restauratrice, on s'entend, pour pouvoir le diffuser par après. Donc, l'archive sert aussi à ça. Exposition. Les objets et les archives servent pour leur esthétisme, servent aussi pour leur information. On mélange ça en muséologie. On les met tous ensemble, on fait une histoire, il faut que les gens comprennent en général qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'y a plus seulement le lien de l'objet avec son fond, mais il y a en fait de l'objet, je parle de l'archive tout seul avec son fond. Il y a aussi les liens entre les objets qui vont chercher l'information dans le fond. Donc, ici, on a des archives du HEC pour l'exposition VIO, parce que le HEC avait le fond de la biscuiterie VIO, qu'on a exposé avec des objets. Donc, on voit ici le travail du muséologue, c'est de tout mettre en forme pour que le visiteur qui ne connaît rien à l'histoire puisse s'intéresser et comprendre différentes façons d'exposer les vitrines, comme je présente à droite, et puis, évidemment, le cadre à gauche. Il y a une limite entre l'objet et l'archive quand on travaille soit en archivistique ou en muséologie, mais dans une exposition, c'est la même chose. Donc, où est la limite? Qu'est-ce qui est une archive? Encore VIO, on avait des boîtes de biscuits. Ça a été conservé pour présenter tous les types de boîtes de biscuits qu'il y a eu du temps de l'organisme. Donc, c'est une archive ou c'est un objet? Même chose à côté, c'est une exposition sur le hockeyeur Émile Butch-Bouchard. Lui, le but d'exposer ses archives, en fait, c'était qu'il voulait les faire acquérir par un organisme. Dans ce cas-là, il a fallu faire de la mise en exposition pour mettre en valeur les archives autant que les objets. Donc, c'est ce qu'on voit ici, avec un chandail des Canadiens qui a été très, très difficile à sécuriser parce que c'était quelque chose de collection et très stressant. Et dernièrement, je finis avec ça, la préservation. En muséologie, on préserve. C'est un domaine qui est hyper important. Je ne dirais pas plus important qu'en archivistique, mais on travaille très, très fort à ce domaine-là. Donc, on travaille avec les restaurateurs. Les techniciens, comme moi, savent faire toutes sortes de moyens de préservation, comme le passe-partout avec la lanière de Millard qu'on voit complètement à droite pour soulever la photographie plutôt que de mettre ses doigts dessus. À gauche, ce sont des livres qui ont été... placé dans une boîte Solander parce que ça allait partir à l'externe dans un autre pays pour exposition, donc pour que ça ne bouge pas. Et puis en haut, c'est une table de préservation avec le petit pot de colle à l'amidon qu'on utilise beaucoup en préservation, qui nous aide, tout dépendant du mandat qu'on a, soit à faire des réparations, soit à faire des charnières sur les objets pour les installer dans des passe-partout. Et dernier volet de la préservation, c'est l'exportation en fait des objets pour exposition à l'international. Vous avez ici une maquette dans une boîte bleue. La boîte bleue a servi vraiment à ce que la maquette ne bouge pas dans sa caisse de transport. On a des poids à certaines places stratégiques. On a parlé avec les restaurateurs. La maquette, où est-elle le plus fragile? Comment est-ce qu'on peut la préserver le mieux possible? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Comment aussi monsieur, madame qui travaille dans le musée à Londres va concevoir la boîte et comprendre comment sortir la maquette? Donc, il faut tout expliquer ça. Il faut mettre des images. Il faut décrire Donc, il faut documenter ce qu'on fait. J'ai déjà travaillé un projet et j'ai presque fini de maquettes qui venaient du Japon. Et ils ont eu la bonne idée de tout écrire en japonais. Je ne comprenais absolument rien, sauf un dessin. À côté, il était écrit « Hop ». Je me suis dit « Tiens, ça veut dire que ça va par en haut ». C'est tout ce que j'ai su. Ça a été très, très difficile de replacer la maquette. En fait, c'était plusieurs maquettes après l'exposition parce qu'on avait pris des photographies, mais bon, on ne peut pas s'aider avec les pictogrammes. Donc, c'est important de pouvoir travailler à l'international, faire des dessins, montrer le moyen le plus clair pour quelqu'un qui n'a pas la même culture que nous, pour qu'il puisse travailler avec l'objet. Et vous avez une caisse ici qu'on peut... peut-être que M. Lacasse ici est capable de reconnaître que ça vient du Grand Séminaire. Ça l'a été pour l'exposition des Sulpiciens au Musée des Beaux-Arts. On a travaillé à faire la caisse pour s'assurer que les objets qui allaient en restauration au Musée des Beaux-Arts arrivaient d'un bloc là-bas. Et une fois qu'ils arrivaient comme il faut, on était tranquille. Le Musée des Beaux-Arts s'en occupait. Ça vous donne une idée. C'est pas une institution, c'est vraiment le travail sur le terrain, les choses qu'on me demande de faire ou que je suis appelée à faire. Merci pour toutes les personnes qui m'ont fait travailler dans ces différentes institutions. Parce que j'ai montré des photos de plein d'institutions. Et voilà.
Merci, Claudine. Et merci, mesdames, pour vos présentations. Bon, le temps file et bon, il y aura une période de questions, mais je veux quand même garder quelques minutes pour quelques discussions. Mais je pense que déjà, à travers les présentations qui vous ont été offertes ce matin, vous êtes à même de voir que d'un côté, il y a de nombreux défis spécifiques à chacun des milieux, mais ces défis-là, souvent aussi, sont des défis qui nous rassemblent parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes dans le travail qu'on fait. Et je pense qu'une des choses qui est ressortie des présentations, c'est la multidisciplinarité, donc l'importance de s'ouvrir, si on veut, à nos collègues, à d'autres, pour nous supporter dans notre travail, parce que, bien entendu, on ne peut pas être un expert dans tout. Bon, Claudine a parlé beaucoup aussi de restauration, conservation, préservation, ce qui est, pour avoir travaillé dans des musées depuis le début de ma carrière, un des dadas au niveau de la muséologie, ce qui est important aussi en archivistique, mais qui ne se présente pas de la même façon. Mais bref, donc, multidisciplinarité, s'ouvrir à différents champs d'expertise. Et aussi, c'est intéressant de voir comment les perspectives changent des fois dépendamment des milieux, mais pour nommer ou gérer des mêmes choses. On peut voir un document d'archives comme un objet, vice-versa. L'exemple des boîtes de biscuits était fort éloquent. Ça peut être un livre rare, ça peut être d'autres items dans des fonds d'archives. Alors, c'est des questions de perspective aussi. Et pour ouvrir la discussion, nous nous sommes rencontrés quelques fois, bien entendu, avant cette table ronde pour parler un peu, préparer ce qu'on vous présente aujourd'hui. Une des choses qui est ressortie, justement, c'est cette mixité, les collections mixtes que l'on retrouve dans nos milieux et comment on les gère différemment ou de la même façon, mais comment, dans les trois milieux, musée, bibliothèque, archives, on retrouve des objets, des documents et aussi des livres. Mais chacun, on les gère des fois un petit peu à notre façon. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir un peu sur son expérience ou sur sa vision par rapport à cette mixité des collections.
J'ouvre le bal. Oui, c'est intéressant parce que effectivement, je vous ai montré un petit peu nos collections et récemment, bonjour Isabelle, nous a trouvé une stagiaire en archivistique parce que nous avons découvert un fonds de documents d'archives qui n'était pas traité et nous avons d'autres documents d'archives mais qui ont été traités de manière bibliothéconomique et qui se trouvent dans le catalogue des bibliothèques qui est donc introuvable pour un chercheur. Donc là, on a décidé de changer de stratégie et de traiter ces fonds d'archives-là de manière archivistique. Donc ça a été, c'est un exemple d'expérience et de changement de méthode où plutôt que d'adapter le document, l'objet ou autre à nos manières de faire, on adapte nos manières de faire évidemment au document, ce qui est beaucoup plus logique et ce qui facilite aussi sa diffusion et son accès. On a également fait signaler ces fonds d'archives sur le RDAQ, quelque chose qui est totalement étranger au monde des bibliothèques, mais qui, nous, dans notre contexte, a été très utile. Et en ce qui concerne nos objets, je vous le disais, on est en train de les inventorier et on le fait de manière à ce que, à terme, ça puisse s'intégrer à la base de données MUSE qui rassemble les objets des musées. Donc, on va renseigner les champs et nos objets de manière à ce que ça réponde à ce qu'on retrouve dans MUSE et on espère pouvoir mettre ces objets-là en valeur de cette manière-là en s'adaptant aux normes et en s'adaptant aux outils qui existent. Donc, c'est un exemple de travail sur la diversité des collections et la manière de s'adapter à cette diversité-là.
Pour reprendre ce que dit Sarah, c'est justement un des éléments qui est intéressant, c'est qu'on ne se limite plus uniquement à notre domaine à nous. Donc, on va vers l'extérieur, on va chercher les gens qui peuvent nous apporter de l'eau à notre moulin. On sort de notre réseau habituel, donc, dans le cas de Sarah, d'aller vers la bibliothèque, vers les archives, et nous, on fait le chemin inverse actuellement, donc on s'en va vers la bibliothèque pour élargir, comme le disait Claudine tout à l'heure, à propos de ces boîtes de biscuits. Bon, moi, j'ai la réponse. Les boîtes de biscuits sont muséologiques, alors que les boîtes à bonbons sont archivistiques. Donc, nous, on a les boîtes de bonbons, ils ont les boîtes de biscuits. Donc c'est tout l'intérêt, justement, de nos domaines de pratique, d'aller, justement, s'ouvrir à autre chose, découvrir autre chose pour, justement, que ce qu'on conserve, que ce qu'on conserve et qu'on préserve pour les générations futures, mais aussi pour nos contemporains, puissent être justement utilisés à leur plein potentiel. Et justement, vivent à la fois les bibliothécaires et muséologues. Je pense, chez nous, on a des documents. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai perdu le fil de mon idée. Mais à HEC, les deux premiers directeurs étant belges, ils étaient de grands collectionneurs et ils ont mis sur pied une superbe collection de documents anciens, dont le plus ancien remonte à 1447. Donc, pour ma part, j'étais un peu déboussolée devant tout ça. Et heureusement, justement, par les musées, nos collègues qui œuvrent dans des milieux comme ça, que je dis tout le temps aux deux, donc comme François, peuvent nous donner justement des références vers des ressources différentes ou encore les milieux de formation. Donc, les stagiaires, vivent les stagiaires. Donc, ça nous permet justement d'arriver à mieux décrire, mieux préserver ces items-là qui, sinon, auraient une vie limitée et inutile, finalement, dans nos dépôts.
Puis, dans les domaines patrimoniaux, ce que j'ai remarqué, c'est que on collectionne et on acquiert toutes sortes de types de documents pour des fins de diffusion souvent. Ça ne peut pas qu'inclure seulement les objets ou les archives ou la bibliothèque. Un chercheur veut s'informer sur un tel projet, il va avoir et des archives et des dessins et des maquettes peut-être et des livres de la bibliothèque. J'ai vu dans certaines institutions des fonds d'archives acquis pour leur valeur esthétique, comme je disais. On décrit pour l'objet qui va être présenté en exposition et quand on a l'argent plus tard, on fait venir un archiviste, bien qu'on soit dans un musée, puis on lui demande de décrire de façon RDDA pour que le chercheur plus tard puisse retrouver les objets et tout le lien entre les archives. Donc, il n'y a jamais de limite très, très claire dans les institutions où j'ai travaillé entre l'objet, la bibliothèque et puis l'archive.
Les limites sont effectivement de plus en plus floues et je pense qu'un élément central, c'est un peu de mes dada aussi à ce niveau-là, c'est justement le chercheur ou la personne qui va avoir l'information. Dans l'ère Google aujourd'hui, les gens veulent avoir l'information, veulent l'avoir rapidement et jusqu'à un certain point, pour eux, ça importe un peu que ça vienne d'un musée, d'une bibliothèque ou d'un centre d'archives. Je pense qu'ils veulent avoir l'information et les nouvelles technologies contribuent, je pense, à ces rapprochements-là. Bon, là, j'embarque dans tout mon discours habituel, mais je pense que c'est reflété aussi dans ce que tu dis. Écoutez, on avait plein de beaux sujets potentiels de discussion pour notre table ronde. On voulait entre autres parler de la formation et quelle était son adéquation avec notre travail dans les différents milieux. Les ressources dans notre travail aussi, elles sont toutes limitées. Ça, je pense que ça a été mis en valeur aussi, mais comment on deal avec ça, pardonnez-moi, et aussi comment on met en valeur nos collections. qu'on parle d'objets, d'archives ou de livres, ou les trois en même temps. Souvent, c'est ça qui arrive. Bon, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas tout à fait le temps d'embarquer là-dedans parce qu'on est déjà presque rendu à l'heure de la fin de cette présentation. Il nous reste quelques minutes, par contre, et s'il y en a qui ont des questions, je pourrais vous inviter à les poser à nos panélistes.
C'est pour l'enregistrement. Je voudrais remercier les conférencières et la personne qui a eu l'idée de réunir ces gens-là autour d'une même table. Et je pense que les trois personnes, et François vient de le mentionner, pour l'archiviste, souvent, les nouvelles technologies, c'est vu comme un ennemi à combattre, dans le bon sens du terme. Ne pensez pas que je suis contre, je suis pour, mais ça produit de l'information de façon incontrôlable, souvent. Mais c'est en même temps un grand ami. Et on l'a bien réalisé, là. Moi, j'ai l'impression que la limite qu'on avait dans le temps, parce que moi, je suis un vieux, là, qu'on avait dans le temps entre ces disciplines-là, ça n'existe plus ou ça n'existera plus avec les moyens technologiques qu'on a maintenant. Et je ne me rappelle pas quelle conférencière le mentionnait bien, là. C'est que, je pense que c'est vous, Sarah, en disant, moi, je vais déposer ça dans Muse. Donc, vous êtes dans votre bibliothèque et vous pouvez nourrir Muse comme Muse pourrait nourrir votre bibliothèque avec des données. Et vous l'avez bien mentionné, là, ces limites-là, pour l'utilisateur, ils ne veulent pas le savoir. On les a habitués, puis c'est normal, là. Quand on cherche quelque chose, on va avoir toute l'information dont on a besoin et rapidement. Et moi, je suis convaincu que les nouvelles technologies, appelons-les plus nouvelles technologies, ce sont les technologies et c'est elles qui ont jeté par terre les limites de nos domaines d'activité pour des fins de diffusion. Mais ce qui est très important au-delà de ça, c'est le respect des principes de base de ces domaines d'activité-là. On peut bien diffuser, puis c'est ce qu'on fait, mais il faut quand même respecter les principes de base qui sont propres à chacune des disciplines pour garantir que la boîte de biscuits, on la mettra bien ou on la décrira bien comme elle doit être décrite. Parce que la description qu'on fait, c'est pour le chercheur par la suite. Mais moi, je suis convaincu qu'avec des jeunes comme vous êtes, là, on est en voiture. Merci.
Je trouve ça très intéressant. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on considère les besoins de chacun des types d'objets ou de documents. Donc, que vous ayez fait une description selon des RDDA pour des documents d'archives et qu'on respecte le principe de respect des fonds et aussi que vous le diffusiez sur le RDAQ. Ce qui fait que ce type de document-là, qui risque d'être cherché par un certain type d'utilisateur pourraient être retrouvés dans une ressource où ils s'attendent à les retrouver. Et je crois que la seule petite inquiétude que j'ai, moi, par rapport au mélange, c'est fantastique parce que je crois qu'on ne peut pas effectivement séparer ces différents patrimoines-là de façon coupée au couteau. Mais des fois, je trouve que c'est notre amour du patrimoine qui nous fait conserver des choses comme, disons, j'ai un document sur un fonds en particulier et qu'un autre organisme le fonds au complet, je crois qu'on devrait donner ce document-là où il devrait aller, même si on a tous nos toutes les facilités pour le diffuser sur Internet, pour le faire connaître, mais je crois que il serait beaucoup plus mis en valeur et beaucoup plus facilement repérable et plus dans son contexte si on accepte de le remettre à l'endroit qui a la majorité des.
J'aimerais répondre à ça si on a quelques instants. Oui. Effectivement, là, on a des fonds pour lesquels on a des donateurs qui ont l'exigence que ça reste à la bibliothèque. Mais on a des échanges aussi réguliers. Il y a Michel Champagne qui est là, me semble-t-il, avec le service de gestion des documents et des archives. Et on a des échanges lorsque nous, on voit des documents ou on reçoit des documents de type archivistique et qu'on juge que, effectivement, la visibilité en serait augmentée parce que le service des archives a le fonds. On les contacte contactent et on leur propose le transfert, et eux font l'inverse aussi. Et on a reçu récemment, on a découvert récemment un document de la main d'un grand sociologue dont le nom m'échappe là pour l'instant, qui se trouvait à la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines. Eux m'ont consulté pour savoir si on voulait garder ça, et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un fonds de ce sociologue-là en archive, et je les ai invités à transférer, à donner ce document-là au fond, et c'est ce qui a été fait. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut, pour augmenter la visibilité, il ne suffit pas de mettre au bon endroit et de décrire de la bonne manière, il faut le conserver au bon endroit. Je suis entièrement d'accord avec vous.
C'est tout le temps dont on dispose, malheureusement on va devoir s'arrêter ici. Je me permets d'avoir le mot de la fin pour cet atelier fort intéressant où nous sommes ce matin, exactement dans le prolongement de la conférence d'hier soir. Monsieur Bachimon nous a bien dit qu'on se retrouve avec des masses toujours de plus en plus colossales, et il y a un élément fondamental pour pouvoir gérer ça, c'est la culture de l'archiviste, la culture du spécialiste qui doit gérer ça. Ah, il nous l'a bien dit, si on ne connaît pas le sens de ce que l'on conserve, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Alors, dans les propos qu'on a entendus ce matin, on voit bien que, soit par soi-même, avoir la connaissance, avoir la culture, ou aller également vers d'autres pour pouvoir rajouter et combler les différences pour offrir le meilleur service possible. Comme d'habitude, les conférenciers au congrès de l'AAQ sont des gens qui donnent de leur temps. C'est de leur temps personnel qu'ils ont consacré à préparer des communications. Il va de soi que l'association veuille souligner cette générosité. Et nous le faisons durant ce congrès en remettant à chacun des conférenciers le magnifique livre « L'aventure de l'électricité » de nos collègues Caroline Rouleau et Caroline de Cholette d'Hydro-Québec, qui est sorti au dernier salon du livre de Montréal. Alors, c'est notre façon de les remercier, et je vous invite à avoir une bonne réponse.